VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mardi 29 décembre 2015. À la une ce soir.
Burkina Faso, transfert historique du pouvoir un peu plus d'un an après la chute du régime Compaoré.
Un jour nouveau se lève au Burkina Faso, chargé d'espoir pour un lendemain meilleur.
Le nouveau président burkinabé, Marc-Christian Kaboré.
Finalement, la Guinée est déclarée libre d'Ebola.
La Guinée entre maintenant dans une période de surveillance renforcée de 90 jours, a indiqué l'OMS.
Jour J-1 en Centrafrique pour les élections présidentielles et législatives. Les craintes persistent quant à la sécurité du vote, mais les électeurs sont contents d'aller voter.
Je suis très très content. C'était l'idéal d'aller à l'élection parce que si on restait comme ça, on n'allait pas trouver la solution.
Malédiction pour les producteurs de l'or noir, fin de l'État-providence.
Les pays producteurs, la plupart, pour les dépenses du gouvernement, l'argent pour ces dépenses sort des revenus de la vente de pétrole.
Nous parlerons ce soir de l'impact de la chute des prix du pétrole.
États-Unis, pas d'action en justice contre le policier blanc ayant abattu le jeune noir Tamir Rice. Nous aurons les réactions.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Roch Marc-Christian Kaboré, nouveau président élu du Burkina Faso. Il a été investi aujourd'hui. C'est donc la fin du régime de transition qui a suivi la chute du président Blaise Compaoré en octobre 2014. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement à Ouagadougou pour cet événement historique. Issa Napon.
Oui, un moment véritablement historique à double titre parce que nous sommes en train de vivre une alternance appelée tous nos voeux depuis plus d'une vingtaine d'années. Et ensuite parce que pour la première fois, un président civil remet le pouvoir à un autre président civil démocratiquement élu. Cela, nous ne l'avons jamais vu au Burkina Faso. Et je crois que Roch Marc Kaboré a pris la mesure de l'immensité de la tâche qui lui reste à accomplir.
Qu'est-ce que vous avez retenu du discours de Roch Kaboré?
Un discours réellement fédérateur. Il a tenu à saluer le combat de la jeunesse burkinabé. Il a promis instaurer un dialogue afin que tous les Burkinabés se comprennent. Il a justement mis en garde contre tout acte d'incivisme en rassurant que force va rester à la loi.
Présidentiel au Niger, l'ex-chef d'État Mahamane Ousmane a été investi candidat à l'élection de février 2016 par le mouvement nigérien pour le renouveau démocratique, le MNRD. Âgé de 66 ans, Mahamane Ousmane a été le premier président démocratiquement élu du Niger en 1993. Il a été renversé par un coup d'État militaire en 1996. Deux ans après le premier cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la Guinée est officiellement débarrassée de l'épidémie. Bagessikoura.
L'OMS a annoncé ce mardi la fin de la transmission d'Ebola en Guinée. Deux périodes de 21 jours, la durée maximale d'incubation du virus, se sont écoulées depuis le second test négatif sur le dernier patient guéri. La Guinée entre maintenant dans une période de surveillance renforcée de 90 jours, a indiqué l'OMS, rappelant que le risque persiste au-delà de ces 42 jours en raison de la subsistance du virus dans certains liquides corporels, en particulier le sperme, où il peut survivre jusqu'à 9 mois. Cette épidémie d'Ebola, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, a fait plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés. Un bilan toutefois sous-évalué selon l'OMS. Les trois pays les plus touchés sont la Guinée, qui compte officiellement 2 536 morts pour 3 804 cas. La Sierra Leone, déjà déclarée exempte de transmission le 7 novembre, et le Libéria, où la fin de l'épidémie a été annoncée deux fois en mai et septembre dernier, avant de nouvelles résurgences.
Les Centrafricains sont attendus aux urnes demain mercredi 30 décembre. Ils vont choisir leur nouveau président et aussi les députés de la nation. Un scrutin placé sous très haute surveillance. Bangui Freeman Sipila.
À un jour de ces élections, les mises en garde se sont multipliées le long de la journée. Le ministre de la Sécurité publique, le général Pierre Chrysostome Sambia, a rassuré les électeurs que toutes les dispositions nécessaires sont déjà prises pour favoriser le bon déroulement du scrutin. De son côté, le ministre de la Défense nationale, Joseph Bindoumi, a indiqué que la sécurisation de cette échéance dans les zones dites sensibles sera assurée par des éléments des forces armées centrafricaines en faction ces derniers temps sur les postes statiques dans la capitale. À Bangui, justement, la MINUSCA a renforcé son dispositif sécuritaire, notamment dans les zones où le vote référendaire du 13 décembre avait été menacé. Une rencontre sur la sécurisation de ces élections a réuni ce mardi à Bangui la communauté internationale et les candidats à la présidentielle. La communauté internationale a exhorté chaque parti à contribuer à la réussite de ce processus afin de sortir le pays de l'ornière. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Maintien de la paix en République démocratique du Congo, c'est Derek Ngwenbi, un général sud-africain, qui prendra le commandement de la force onusienne de 20 000 militaires, la MONUSCO, et c'est ce qu'a annoncé l'ONU.
Génocide rwandais, Onesphore Rwabukombe a été condamné par un tribunal allemand à la réclusion à perpétuité. L'ancien maire de Movomba, âgé de 58 ans, a été jugé pour son rôle dans le massacre de plus de 400 Tutsis réfugiés dans une église en 1994.
Enquête sur l'accident d'hélicoptère du premier ministre béninois Lionel Zinsou. Selon les premières conclusions, l'incident survenu samedi est dû à une erreur humaine. Il est sorti, souvenez-vous, indemne de cet accident d'hélicoptère survenu alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Djougou dans le nord-ouest du pays.
Élection sénatoriale à Madagascar. Le vote d'aujourd'hui vise à restaurer la chambre haute du Parlement, dissoute après le coup d'État de 2009. Le vote s'est déroulé dans le calme.
Sénégal, 11 personnes arrêtées pour homosexualité présumée ont été libérées par la justice, faute de preuves. Ils avaient été arrêtés le 24 décembre lors de la célébration du mariage de deux homosexuels présumés après avoir échappé à un lynchage.
En Gambie, le Parlement a adopté une nouvelle loi réprimant pénalement l'excision. Cette pratique est donc passible de peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans et une amende de 1 300 $.
Gestion des eaux du Nil. Des ministres du Soudan, d'Égypte et d'Éthiopie sont tombés d'accord pour surmonter leurs divergences sur un barrage controversé construit par Addis Abeba. Les trois pays vont recourir à l'arbitrage de deux groupes français d'ingénierie, selon un responsable soudanais cité par l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le nord-ouest du Pakistan, au moins 26 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lorsqu'un kamikaze taliban portant une bombe a foncé en moto sur les bureaux d'un organisme gouvernemental à Mardan, ont indiqué les responsables. Cet attentat, souligne l'AFP, montre que les talibans pakistanais ont toujours la capacité de mener des attaques d'ampleur en dépit d'une offensive militaire majeure en cours dans leur fief, ce qui a entamé leur capacité d'action, selon les experts.
Le français Sharaf al-Mouadane, un combattant du groupe État islamique lié directement au djihadiste belge Abdelhamid Abaoud, instigateur présumé des attentats de Paris, a été tué en Syrie. C'est ce qu'a affirmé le colonel américain Steve Warren, porte-parole de la coalition anti-Daesh. Mouadane, qui a été tué le 24 décembre, compte parmi 10 autres responsables djihadistes tués au mois de décembre, a précisé le colonel Warren.
La Cour suprême d'Israël a condamné aujourd'hui Ehud Olmert à 18 mois de prison ferme pour corruption, faisant de cette figure politique le premier ex-chef du gouvernement israélien à se retrouver derrière les barreaux. Monsieur Olmert devra de nouveau se présenter devant la Cour suprême le 19 janvier pour un jugement en appel dans une autre affaire.
Nervosité ici aux États-Unis, où de nombreux Américains restent indignés par la décision de la justice de ne pas inculper un policier blanc qui avait abattu en novembre 2014 dans l'Ohio un garçon noir de 12 ans. La victime, Tamir Rice, tenait un pistolet factice. Et pendant le week-end à Chicago, la police a tué deux autres noirs, un étudiant de 19 ans et une mère de famille de 55 ans, en répondant à une situation dite de trouble domestique. Idrissa Sedoudia fait le point.
Le maire de Chicago, Rahm Emanuel, a décidé de couper court à ses vacances à Cuba pour retourner chez lui. La fusillade de samedi n'a fait qu'accroître les tensions dans sa ville, où des manifestants ont continué à exiger sa démission. Après que la justice eut formé les autorités locales, a publié une vidéo montrant un policier tiré 16 fois en 2014 sur Laquan McDonald, un adolescent noir de 17 ans. Dans le double incident de samedi, la race du policier n'a pas été divulguée. Concernant le cas Tamir Rice dans l'Ohio, le bureau du procureur avait conclu un an après les faits que la décision du policier de tirer était justifiée car Tamir Rice pouvait être pris comme une menace. Le grand jury s'est donc rangé à cet avis. Déçue, la famille de la victime a demandé au ministère fédéral de la Justice de diligenter sa propre enquête. Selon la scène filmée par une caméra de surveillance, deux policiers en patrouille étaient intervenus à Cleveland, dans le centre de la ville, alertés par un appel faisant état d'une personne armée sur place. L'un des agents avait très vite ouvert le feu, tuant le jeune Tamir Rice de deux balles dans l'abdomen. Cette affaire avait ravivé l'indignation de nombreux Américains qui manifestaient depuis plusieurs semaines contre l'impunité dont bénéficiaient, selon eux, certains policiers blancs impliqués dans la mort de Noirs.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Idrissa Seydoutia.
Au Cameroun, le ministère des Travaux publics, avec une enveloppe de 403,9 milliards de francs CFA, se taille la plus grosse part dans la répartition du budget 2016, dont la loi vient d'être promulguée par le président camerounais Paul Biya. Ce département va poursuivre le programme de construction de plusieurs axes routiers et doit en outre faire des projets d'érection d'infrastructures liés à l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations, CAN, de football 2016, dames, et 2019, messieurs, rapporte l'agence APA. Toujours selon la même agence, les réformes entreprises en Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara depuis son arrivée au pouvoir en avril 2011 ont abouti mi-décembre à l'élection de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation, un pas supplémentaire vers l'émergence à laquelle le pays aspire à l'horizon 2020. Depuis 2011, la relance économique de la Côte d'Ivoire est en net progrès. La Chine va débourser plus d'1,3 milliard d'euros, soit 850 milliards de francs CFA, pour la rénovation du tronçon malien de la ligne de chemin de fer Bamako-Dakar, une voie stratégique pour les échanges entre le Sénégal et le Mali, mais en mauvais état, a appris l'AFP auprès du ministère malien des Transports.
Comme toujours, ce thème annonce la page sport, présentée ce soir par John Lyndon. Salut John.
Bonsoir.
Au Cameroun, l'on cherche toujours un entraîneur pour les Lions Indomptables.
Effectivement, un appel à candidature a été lancé par la Fédération camerounaise de football et la presse fait savoir qu'Alain Giresse fait figure de favori alors que Claude Leroy serait out. Nous avons posé la question à Martin Kamumim. Il est journaliste sportif et directeur de Radio Sport Info à Douala.
Évidemment, je peux dire qu'il est rentré contre toute attente parce que l'Europe était prédestiné dans les médias à venir au Cameroun puisqu'il avait démissionné de façon fracassante au Congo. Après, je ne peux pas non plus dire que c'est un acquis parce qu'il y a derrière également beaucoup de lobbies qui s'affrontent parce que je crois que le candidat de Pouma s'appelle Rajevac et donc le gouvernement est, selon mes informations, veut absolument un entraîneur français. Et donc, cette bataille de réseau, je crois qu'elle est en train peut-être de s'estomper. On verra d'ici là, mais de toute façon, je dirais que ça a quand même pris une longueur d'avance par rapport à tout ce qui était shortlisté. Et donc là, il y a également un Camerounais du nom de Marius Omok qui, de toute évidence, aussi risque d'être l'adjoint de Giresse, comme Omam était pressenti pour être l'adjoint de Claude Leroy. Il y a aussi Hervé Renard, Didier Six et Rajevac. Le dernier mot, en tout cas, tout n'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup de jeux en cours, donc on attend de savoir.
Le journaliste Martin Camus-Main. John Lennon, le Burkina Faso, lui, a déjà choisi son entraîneur de football et c'est Paulo Duarte.
Oui, le technicien portugais de retour va donc retrouver le banc de ses succès. C'est sous sa houlette que les étalons avaient franchi un palier, se qualifiant pour les CAN 2010 et 2012. Le groupe, entièrement façonné par celui qui fut aussi coach du Mans, atteignit la finale de l'édition 2013 sous la direction de Paul Put. Depuis son départ de Ouagadougou, Duarte, âgé de 46 ans, a en revanche collectionné les échecs au Gabon comme en Tunisie.
Transfert, Watford sera actuellement en discussion avec Emmanuel Adebayor.
Watford pourrait relancer la carrière d'Emmanuel Adebayor sans club depuis son départ de Tottenham en septembre dernier. Les Spurs ayant résilié son contrat, l'attaquant togolais, 31 ans, 56 sélections, discute actuellement avec les Hornets.
Voilà, merci pour cette page sport. John Linden.
Morgane Guiriac et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Burkina Faso.
Roch Marc-Christian Kabore, vainqueur de l'élection présidentielle du 29 novembre, a été installé ce mardi dans ses fonctions de chef de l'État pour un mandat de 5 ans. La cérémonie d'investiture a été rehaussée par la présence de 9 chefs d'État venus du Gabon, du Mali, du Niger, du Togo, du Bénin, du Ghana, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Guinée-Conakry et de plusieurs délégations de haut niveau venues d'Europe et des États-Unis. Le nouveau président du Faso s'engage à réconcilier tous les Burkinabés dans la paix et la justice. On écoute le reportage de Zoumana Wonogo.
C'est dans un palais des sports de Ouagadougou plein à craquer que le nouveau président a été investi par la formule du serment.
Je jure devant le peuple burkinabé sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso.
Christian Kabore, le conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président du Faso et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions.
En le renvoyant à ses hautes fonctions, le président du conseil constitutionnel lui a prodigué des conseils, suivant les conseils du président Kassoum Kambou.
À son excellence, Monsieur Roch Marc-Christian Kabore, président du Faso, à compter de ce jour, vous êtes le président du Burkina Faso. Vous cessez d'être le chef partisan pour devenir le président de tous les Burkinabés, et ce pour un mandat de 5 ans. Soyez en tout temps fidèle au terme du serment que vous venez de prononcer.
En 55 ans d'indépendance, le Burkina Faso a connu 9 chefs d'État, et c'est la première fois que l'on a pu assister à une passation de charge entre deux présidents civils. C'est ce qu'a noté le président de la transition, Michel Kafando, avant de dire ceci au nouveau président du Faso. On écoute Michel Kafando.
Monsieur Roch Marc-Christian Kabore, nouveau président du Faso, je voudrais lui souhaiter tout le bonheur et le succès possible. Je forme des vœux sincères pour la réussite de son mandat. J'ai déjà assuré, président Kabore, président de tous les Burkinabés, de mon entière disponibilité à l'accompagner s'il en exprime le besoin. Je lui ai également recommandé de tenir compte des sillons tracés par la transition pour une meilleure intégration des jeunes et des femmes dans le processus du développement national.
En réponse, voici ce que le nouveau président Roch Marc-Christian Kabore a dit.
Un jour nouveau se lève au Burkina Faso, chargé d'espoir pour un lendemain meilleur. Mon programme intitulé « Bâtir avec le peuple, un Burkina Faso de démocratie », de progrès économique et social, de liberté et de justice, devenu par l'onction populaire le programme du président de tous les Burkinabés, ambitionne de répondre à cette quête de justice, de transparence, de démocratie et de prospérité partagée exprimée par toutes les composantes de notre nation. La conciliation nationale en sera le socle, la paix le moteur, la vérité, la justice, la transparence, les adjuvants essentiels pour construire ensemble dans la durée une nation forte, fière, prospère et intègre.
Passer de la 4e à la 5e République, tel est le vœu du président Roch Marc-Christian Kabore, afin de réussir sa mission de Burkina nouveau. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Capturant la République centrafricaine, cette fois-ci le pays est bel et bien engagé dans la dernière ligne droite avant les élections générales de mercredi qui combinera la présidentielle et les législatives. À la veille de ce scrutin majeur, quel est le sentiment des Centrafricains? Quels sont leurs espoirs, leurs attentes? À Bangui, notre envoyée spéciale, Tatiana Mousseau, a pris le pouls.
Je suis très très content. C'était l'idéal d'aller à l'élection parce que si on restait comme ça, on n'allait pas trouver la solution. On se tend vers une ère et cette ère est celle de la paix, de la réconciliation.
Est-ce que demain vous allez aller voter et si oui, quelles sont vos attentes?
Oui, demain j'irai voter. Et je suis vraiment ravi d'y aller voter, car c'est le devoir d'un citoyen. Je suis tellement, tellement ravi, car je veux vraiment que notre pays sorte de cette crise où nous sommes actuellement.
Demain, il y a finalement le premier tour de l'élection présidentielle et législative. Est-ce que vous êtes contente et quelles sont vos attentes?
Oui, en fait, je suis très contente concernant les élections de demain. Et mes attentes, j'aimerais ça, que ça se passe dans la légitimité et que ça se passe pas par fraude. Et que cela se fait dans la norme des choses et qu'il n'y aura pas des troubles demain.
Et qu'est-ce que vous attendez du prochain président?
Bon, ce que moi j'attends du prochain président, c'est qu'une fois élu, qu'il vienne faire son travail et que la paix soit dans le pays. La sécurité, qui dit la paix, ça concerne la sécurité. Que le peuple ait la libre circulation de sillonner partout dans le pays.
Demain, jour de vote dans toute la Centrafrique. Il n'y a pas de nouveau report. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'étudiant? Est-ce que vous êtes content d'enfin pouvoir aller voter?
Je pense pour ma part que je suis très très content. Et ça, c'est un début pour nous, les étudiants, dès maintenant. Et demain, je sais que c'est un début de la République centrafricaine. Nous sommes tous joyeux. Et
qu'est-ce que vous attendez du prochain président?
Ouais, ce que moi j'attends du prochain président, c'est que ce que nous attendons, premièrement, c'est la sécurité et le retour de la paix. Et maintenant, il faut qu'il jette un coup d'œil dans les éducations à Bazès et au niveau de l'université.
Propos recueillis par notre envoyé spécial sur place, Tatiana Mousseau.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Retour sur la République centrafricaine au lendemain du premier tour de la présidentielle et des législatives. La RCA peut-elle tourner la page? Et dites-nous ce qui vous a marqué en 2015 et ce que réserve 2016 pour le monde, l'Afrique en particulier. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h30.
En République démocratique du Congo, le gouverneur du Sud Kivu a été interpellé par le Parlement régional pour s'expliquer sur la gestion de la province. La mesure a été initiée par le député Abamungu Mirindi. Une correspondance de Ernest Muhero.
Le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tshishambo, était devant la représentation provinciale du Sud Kivu ce 28 décembre 2015 et pour cause, répondre à une interpellation du député provincial Théophile Abamungu qui lui reproche, entre autres, d'appliquer une politique générale de son gouvernement en déphasage avec le programme d'action du gouvernement provincial que le même gouverneur a présenté devant le député lors de son discours programme le 20 juillet 2010 en prenant ses fonctions. Dans cette interpellation de 41 pages, plusieurs autres griefs liés à la gouvernance dans différents secteurs de la vie au Sud Kivu ont été révélés. Le député Théophile Abamungu.
J'ai choisi d'interpeller le gouverneur Tshishambo Marcelin à la suite d'un état des lieux que j'ai fait sur le fonctionnement des institutions, sur la gouvernance politique, sociale, sécuritaire en province du Sud Kivu. Les problèmes très très sérieux au niveau de la gestion financière, au niveau de la territoriale, de l'exécution des budgets, tous les secteurs quoi.
Dans ces éléments des réponses de 29 pages, le gouverneur Marcelin Tshishambo a tantôt nuancé ou rejeté plusieurs affirmations contenues dans l'interpellation des Abamungu. Il a estimé que dans le fond, ces affirmations souffrent d'un problème d'exactitude et de vérité. Le gouverneur à la barre a été particulièrement très critique quant à la question sécuritaire, estimant que le député devrait à la limite être sincère, car sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'efforts au Sud Kivu, où l'activisme des groupes armés est de moins en moins virulent par rapport aux années passées.
Ça donne parfois l'impression que ça n'avance pas sur le plan sécuritaire. Ici, vous avez l'occasion de faire le tour du territoire. Vous trouverez toujours l'effort sécuritaire fourni. Sur la gestion des finances, il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que si vous me permettez, on y reviendra plus techniquement. Mais je voudrais quand même faire remarquer que nous sommes de nouveau la seule province, sur 26. avoir accepté l'informatisation de la chaîne de dépenses.
Pour les cas de dysfonctionnement réel et avéré dans tel ou tel autre ministère, le gouvernement a promis de s'assurer que chaque ministre joue correctement son rôle. Il a déploré que l'absence de communication efficace entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial ait entretenu et fait germer des rumeurs préjudiciables. Au sujet par exemple des absences du gouverneur en province, il a précisé qu'au niveau managérial, les enjeux vitaux de la province ne se jouent pas seulement dans les limites territoriales. La plénière dirigée par le député Émile Baleke Kadoudou s'est déroulée dans une ambiance électrisée en présence des 30 députés provinciaux, des ministres et autres membres du gouvernement provincial et certains habitants de Bukavu venus suivre cet exercice démocratique de redevabilité.
Il y a un problème qui ne dit pas encore son nom entre les deux institutions. Et j'ai appris aussi que depuis 5 ans, son gouvernement n'a jamais mobilisé même pas 50% des recettes. Ça, c'est très grave.
Signalons que le gouverneur est attendu à l'Assemblée provinciale ce 30 décembre 2015. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
C'est la période des vaches maigres pour les pays pétroliers. Victimes de l'effondrement record des cours de l'or noir, ils sont obligés de prendre des mesures populaires. Ainsi, l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a augmenté de 80% les prix des produits pétroliers et de 70% celui de l'électricité, en plus d'une vaste réforme pour limiter la dépendance vis-à-vis du pétrole.
Pour un éclairage sur cette situation, j'ai joint Michael Kivane. Il enseigne l'économie à l'université Santa Clara en Californie.
Les pays producteurs, la plupart, pour les dépenses du gouvernement, l'argent pour ces dépenses sort des revenus de la vente de pétrole. Maintenant que les prix tombent, le gouvernement n'a plus le même revenu qu'avant. Donc, ils sont obligés de baisser leurs dépenses internes pour les services qu'ils offrent aux citoyens. Et donc, par exemple, plusieurs pays exportateurs de pétrole, ils ont un prix de pétrole interne beaucoup réduit à cause des subventions qu'ils offrent aux citoyens. Donc, maintenant, ils seront obligés de lever ces subventions, augmenter le prix.
Est-ce que cela ne risque pas aussi d'avoir des ramifications sur le plan politique?
Oui, je suppose dans certains pays, nous pouvons voir au Venezuela, par exemple, le gouvernement de Nicolas Maduro va avoir des gros problèmes à cause du déficit budgétaire que le gouvernement va continuer à avoir à cause de la chute des prix du pétrole. Nous pouvons voir aussi au Nigeria, même chose, tous les citoyens maintenant du Nigeria, ils peuvent moins acheter des produits importés à cause du changement du taux de change.
Quel rôle ont joué les Saoudiens dans la baisse des cours du brut?
Je pense que c'est un rôle important, mais je pense que ce n'était pas eux qui ont voulu cette chute. La chute a été causée, je pense, surtout par l'augmentation de production pétrolière ici aux États-Unis. Le fracking a pu faire des États-Unis un pays exportateur de pétrole maintenant et de gaz naturel. Donc, c'est ça un peu. Après, on peut voir aussi l'augmentation de production en Irak après les années de guerre. Et en même temps, vous savez, les pays industriels, les pays riches, chaque année, ils adoptent de nouvelles technologies qui diminuent leurs besoins pétroliers.
Alors, j'ai posé la question parce que certains pensent que les Saoudiens et leurs alliés de l'OPEP ont cru pouvoir affecter négativement le fracking ici aux États-Unis. Les petites compagnies ont beaucoup souffert de cette baisse.
Ah oui, ça c'est sûr. Il y a plusieurs compagnies qui ont arrêté les opérations ici aux États-Unis. Mais pour les grands terrains de fracking, de gaz naturel, ça continue, la production va continuer.
Michael Kivane, professeur d'économie à l'Université Santa Clara en Californie. c'est la fin de cette édition. On remercie Georges Léonard Sagnot à la production et mon cher ami Outkou à la console. Présentation à Morgane Guiriac et chez Roubaix Lorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.